Avec Radio G, fêtez les 100 ans de la radio en France sur le 101.5 FM.
Il y a 100 ans naissait la radio, l'occasion de revenir ensemble sur les événements qui ont marqué 100 années de mode, d'invention, de musique, de médias, de cuisine. Bienvenue dans 100% ou 100 ans pour s'entendre, une émission réalisée par une partie de l'équipe de l'émission Tendance à me plaire sur Radio G, une émission découpée en 5 tranches de 20 années. Poursuivons notre exploration avec cette fois-ci les années entre 1940 et 1960 en évoquant les grands événements mais aussi les faits marquants dans les médias, de la cuisine et des loisirs mais aussi de la musique. Et pour ce thème, nous faisons le point avec Sonia.
1940-1960, la musique.
Alors, dans les années 40, eh bien, il y a du swing dans l'air et de la chanson française. Peu après le début de la Seconde Guerre mondiale, le moral de la population est très bas et c'est donc pour ça que le swing fut inventé. Les big bands règnent alors sur la scène musicale, le public cherche à se divertir par la musique, à tel point que même les lieux doivent préparer leur soirée bien à l'avance car les groupes sont très demandés. En France, les années 40 tranchent avec les années 30. Hein. On chante son amour pour la France et la musique cultive le patriotisme. Ainsi, donc, on retrouve Charles Trenet et Tino Rossi hein, qui sont au sommet de leur gloire. La chanson « Douce France » est très représentative de cette période. Elle évoque aujourd'hui la nostalgie d'une France qui était prospère et agréable à vivre.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Dans cette décennie marquée par la guerre, la France et les Français ont besoin de musique plaisante et patriotique et on retrouve à ce moment-là le chant des partisans. Et puis bien sûr, hein, la décennie 1940 verra aussi les débuts et l'apogée d'Édith Piaf. Les années 1950, quant à elles, voient se croiser de multiples styles de musique tels le rock'n'roll, la pop, le swing, le rhythm and blues, la country music, le jazz et la musique soul se côtoient. Alors bien sûr, hein, c'est la naissance du rock'n'roll, Elvis Presley sur le toit du monde. Cette musique domine aux États-Unis et s'est très vite propagée au reste du monde. Tous les styles de musique se teintent de rock'n'roll, de la musique pop à la musique country, en passant par le jazz. Et puis, on retrouve également, hein, là, en réaction aux communautés blanches et de l'envahissement du rock'n'roll sur la scène internationale, la soul qui arrive sur la scène. Elle est dérivée des chants religieux gospel. Et donc, effectivement, c'est un peu influencé également par le jazz et le rock. La soul donc arrive sur scène. Des artistes iconiques, on retrouve Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Redding, Nina Simone. Enfin voilà, toute une belle histoire. Les chanteurs à texte marquent quant à eux les années 50 en France et donc on va retrouver Henri Salvador, Charles Trenet, Georges Brassens, Jacques Brel, mais encore effectivement Édith Piaf.
Merci Sonia. Allez, place maintenant à Pierre Benoît pour les grands événements qui ont marqué les années 40-60.
1940-1960, les grands événements.
Le 18 juin 1940 peut être considéré comme l'acte de naissance de De Gaulle, et ce jour-là est probablement le plus historique pour la radio française, quoique un peu anglaise. Voici ce qu'il s'est passé. Après une période qualifiée de drôle de guerre dans laquelle s'observent et se mesurent français et allemands, ces derniers décident enfin de passer à l'offensive. Le schéma était pourtant bien connu, les soldats du Reich sont passés par la Belgique pour prendre à revers les troupes françaises comme en 14. De Gaulle, colonel à ce moment-là, brille d'abord avec son régiment de blindés. Puis, il est appelé le 6 juin 1940 par Paul Reynaud, le président du Conseil, donc du gouvernement français, comme sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Sa mission est de coordonner la poursuite des combats avec le Royaume-Uni face à l'invasion violente qu'est en train de subir la France à cet instant. Voilà comment et pourquoi il tisse des liens avec Winston Churchill. Et ils fumaient pas de clopes ensemble. Il apprend le 17 juin que Paul Reynaud vient de remettre sa démission au profit du maréchal Pétain. L'exil commence ainsi. Déterminé à continuer le combat et à s'opposer contre Pétain, il est tout seul à considérer qu'il représente la France, une France libre et combative. C'est en substance le message qu'il radiodiffuse le 18 juin pour appeler tous les Français à le rejoindre. Vous le saviez sûrement, mais je vous le mets quand même, l'appel du 18 juin sur la BBC a été très très peu entendu, mais vraiment très peu. Et il n'a même pas été enregistré, sauf 4 jours plus tard sur demande de De Gaulle, qui a répété encore une fois son texte pour l'histoire qu'on entend actuellement.
J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Eh bien, merci Pierre Benoît. Alors, je vais maintenant vous parler des médias de ces années-là.
1940-1960, les médias.
Alors, l'objet de ma chronique est de vous faire voyager dans les médias. Alors, par médias, j'entends télé, radio, internet, mais aussi presse. Alors, concernant la télé, les premières images télé sont apparues avant cette période. Il faut remonter en 1937, voire en 1926. Mais le plus marquant reste 37, où un premier reportage est diffusé en direct depuis l'exposition universelle. Pendant la guerre, il y a eu une coupure de ce média et il faut attendre les années 50 pour que la télévision se développe, avec notamment le premier journal télé en juin 49. À l'époque, pas de présentateur, les actualités sont filmées et commentées en direct et en voix off. La télévision est encore un luxe, on comptait 3000 récepteurs à peu près. On parle alors de radiodiffusion française, la RDF, voire de radiodiffusion télévision française, RTF. Mais il faut attendre un peu plus tard pour voir l'ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision française, arriver. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'univers graphique, des images de générique de l'ORTF, c'était des anneaux dans l'espace, imaginez. Est-ce que vous vous souvenez également de ces génériques de programmes très célèbres et populaires? La séquence du spectateur, par exemple, qui présentait des extraits de films de cinéma, une émission qui va durer jusqu'en 1989. La piste aux étoiles, réalisée par Pierre Tchernia, qui est une émission de télé qui présente un spectacle de cirque. Il y avait également 5 colonnes à la une. Mais à l'époque, quand même, un grand événement va marquer la télévision à l'époque et montrer que ce média a une forte aptitude à saisir en direct de grands moments susceptibles de passionner un large public. Ça se déroule le 2 juin 1953, c'est le couronnement d'Elisabeth II. Et qui présentait à l'époque cet événement et commentait en direct la cérémonie, je vous le donne en mille, Léon Zitrone. Donc vous pouvez imaginer la tête de la reine lorsqu'au moment de son entrée dans l'abbaye, devant une prestigieuse assemblée venue du monde entier, elle pouvait apercevoir pour la première fois les caméramans de 5 télés européennes chargés de retransmettre simultanément et en direct l'événement. Je vous propose d'écouter un extrait de cet événement pour vous replonger dans l'ambiance.
Des hommes, des femmes, des enfants de tous âges et de toutes conditions qui occupaient les trottoirs du parcours depuis plus de 30 heures dessinaient au cœur de Londres une émouvante couronne humaine. Au moment où, sous les yeux de ses deux enfants, la reine Elisabeth, dans toute sa majesté, sort du palais de Buckingham, 10 millions de citoyens britanniques et 500 000 de visiteurs étrangers s'apprêtent à lui faire un triomphe comme on n'en vit jamais.
Alors, avant de passer à d'autres médias quand même, je fais un petit hommage à Bruno avec la première diffusion d'un concours célèbre. Écoutez ce générique. C'est l'Eurovision, le tout début en 1954.
Oui.
Et alors, pour la presse, j'ai été très étonné de titres de presse qui sont apparus dans ces années-là. J'ai noté le magazine Elle, qui a donc 70 ans. Ils ont d'ailleurs fait une expo avec les unes de Elle sur les Champs-Élysées pour cet anniversaire. Et aussi, j'ai noté l'équipe, donc naissance de l'équipe dans ces années-là. On accueille maintenant Karine qui nous parle de quelques inventions dans le domaine de la cuisine et des loisirs, Karine.
1940-1960, l'art de vivre.
Ce qui aura marqué les grandes mutations sociales de ces dernières décennies est l'influence du LSD.
Inspiré par le symposium organisé à l'occasion des 100 ans de son inventeur, cette substance qui a bouleversé la génération du baby-boom, enthousiasmé nombre de scientifiques, étourdi la jeunesse et laissé parfois les plus fragiles sur le carreau. Il a été synthétisé pour la première fois en 1938. Alors côté cuisine, en 1944, sont conçus pour être légers et durables, une option sûre et pratique à utiliser dans la cuisine, à la maison ou lors d'événements en plein air, pour en profiter toute l'année, c'est bien le Tupperware. Une autre année, un appareil électroménager commercialisé pour la première fois en 1955. Tenez-vous bien, c'est un produit à l'origine conçu par des hommes, mais destiné à des femmes. Je vous parle du micro-ondes. En 56, toujours pour les femmes, la pilule contraceptive. Alors c'est une véritable révolution pour les femmes. Leur liberté, leur sexualité, mais aussi leur vie quotidienne allait radicalement être bouleversée. Si le XXe siècle est celui de la libération de la femme, il ne faut pas oublier les nombreuses lois qui, jusqu'aux années 60, les enfermaient dans de véritables carcans. Alors, à l'époque, la contraception est passible d'amende et l'avortement de peine de prison quand ce n'est pas la peine de mort. Donc, il faudra attendre 1967 pour que le Parlement autorise enfin la pilule à entrer dans les foyers français. Alors, sinon, côté jeu, on a l'arrivée du PMU en 1954. Oui, c'est ça. Donc, invention d'André Caruche. Il a créé, créateur et directeur emblématique du PMU, donc le tiercé s'imposa comme le roi des paris et connaissant un large succès populaire, il a donc lancé la dynamique du PMU, premier opérateur européen de paris hippiques et deuxième opérateur mondial. Donc après les chevaux, on a la poupée Barbie qui a fêté ses 60 ans le 9 mars 2019, sans transition aucune. Donc avec ses allures de pin-up, la première Barbie créée par Mattel le 9 mars 1959, archétype de la blonde californienne, elle correspondait au canon de beauté de son temps. Alors si les mensurations irréalistes plus qu'idéales de ses débuts ont depuis été revues par le géant américain du jouet, Barbie a longtemps été poursuivie par cette image un peu caricaturale de femme superficielle, riche et oisive, qui lui a valu d'incessantes critiques. Alors au fil des années, Barbie n'a cessé de se démener pour féminiser de nombreux métiers réservés aux hommes et rester au goût du jour jusque sur les réseaux sociaux.
Eh bien merci Karine. Merci à vous chers auditeurs de nous suivre toute cette semaine à l'occasion des 100 ans de la radio. On se retrouve demain, même heure, même endroit. On passe de 40 à 60% en évoquant les années 60 à 80. Retrouvez toutes les chroniques en podcast sur radio-g.fr. À très vite.
Avec Radio G, fêtez les 100 ans de la radio en France sur le 101.5 FM.